Amis de Radio Occitanie et de la poésie, Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons l'honneur et la joie d'avoir avec nous, dans ce studio de la rue d'Assali, Alain Sureux-Garcia. Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu dans ce lieu qui t'est familier. Tu es comme chez toi ici, bien sûr. Alain, tu vas venir ce soir nous parler de sujets, des conférences que tu es en train de donner à l'Hostal d'Occitanie, à la maison d'Occitanie, 11 rue Malcousinat à Toulouse, et qui porte sur les sujets suivants, les Orients d'Occitanie, clochers et minarets, et le midi, antichambre des Orients. Donc trois volets dont nous allons parler tout à l'heure. Mais auparavant, Alain, je voudrais, s'il te plaît, et c'est une coïncidence, mais la dernière fois que tu es venu, j'avais à présenter un livre de poèmes d'Andreu Resplandi, et cette fois-ci, également, j'ai un nouveau livre d'Andreu Resplandi, qui est un poète provençal, qui nous remercie, bien sûr, d'avoir parlé de ses livres ici à Radio Occitanie, et qui nous envoie un de ses recueils, donc toujours paru dans la collection Lastrado, dans cet éditeur qui s'appelle L'Esparganeo. Voilà, très joli, c'est très bien fait. Alors, il s'agit là de cette langue qui est la langue du félibrige, hein. C'est-à-dire que là, un puriste comme toi va peut-être froncer les sourcils parce que, évidemment, nous sommes dans la langue écrite d'une façon plus phonétique que...
J'ai l'habitude.
Oui, je m'en doute. Que la langue du XIIIe siècle, hein, qui est maintenant l'occitan officiel, hein, l'occitien. Alors, il s'agit dans ce recueil, Dice duves pre che devalo, les dits du soir qui tombent, on est toujours dans cette poésie qui est une poésie contemplative, qui est une poésie, encore une fois, donc de la nature, on pourrait dire une poésie rurale, donc bien l'accent du félibrige, avec ce retour à la terre, mais également... Il y a dans cette poésie d'Andreu Resplandi, il y a toujours, est-ce que c'est lié? Il y a toujours une nostalgie, c'est-à-dire on sent qu'il y a l'abandon de quelque chose, le regret de quelque chose qui est abandonné, et je me dis, voyons, il ne faudrait pas non plus que cette poésie du félibrige soit une poésie un peu trop nostalgique. Hein. Je pense que la langue doit être une langue vivante, une langue d'ici et maintenant. Doit être toujours une langue d'ici et maintenant. Alors, je pense que Andreu Resplandi est toujours d'ici et maintenant, même si on voit quand même qu'il lorgne beaucoup... Sur le passé, ce que je comprends aussi, peut-être aussi qu'il y a l'âge qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus à dire.
Oui, et aussi, est-ce que c'est pas le romantisme du temps, le
voilà,
nouveau romantisme.
Voilà. Alors, il y a ce romantisme du temps que l'on va retrouver effectivement dans ce recueil, dans Dicho d'Uvespre, Chedevalo, aux éditions Lastrado. Si tu veux bien, nous allons en lire deux extraits. Je vais commencer en français pour que les auditeurs comprennent et puis on entendra quand même la sonorité de cette langue. L'ombre qui vient sur mes pensées descend-elle de l'arbre solitaire qui ombrage le seuil? Serait-elle brume mystérieuse qui monte de la terre? Viendrait-elle de la mélancolie des hommes? Je ne veux pas y croire. De leur âge pareillement, d'une mélancolie qui germe en moi. Qui sait? Mais cela n'est peut-être qu'écume. Alors, qu'importe? Si te reste l'exaltation des sommets reluisants d'aurore, quand l'amandier fleurit, s'unit au vent qui passe, et qu'au jardin de joie, espiègle et amical, le rouge-gorge te regarde. Car, me l'a dit, l'eau du torrent fougueux, quand elle s'apaise dans la plaine, le jour où j'y baignais, mon visage en sueur. Qu'il faut se délecter des heures favorables, généreuses et goûteuses, comme fruits mûrs qui s'ouvrent et laissent lentement s'épanouir les soirs tièdes et doux qui viennent au-devant de toi.
L'ombro che ven se mi pensier, da valotti de l'aubre solitari, cumbre giolindau, sarieti d'un neblune mysterius che monto de la terra, de la malinconie disome, che gli voli pas creire, de sarabi, tambe, d'un olagna che greie d'esperieu, causap. Ma in esbeleu a coque de grumo, alor che nciau se te subro le nauromen di cristen, Trelusen d'esmero, cal amelio flori, sa d'un auben che passo e calorto de gau, amistus e bujarun, l'urigau te regarda. Che me la di, laigo d'augau drefou, can sapasimo di libaiso, lo jour che ye bagnave ma caro de Suzu.
Et puis, allez, nous allons lire un deuxième extrait. Alors, c'est un extrait que j'ai choisi parce qu'il fait allusion à la neige. Il dit « Il neige sur les amandiers hein, ». Il est en Provence, donc les amandiers, il y en a neige. Or, la neige, c'est le thème qui a été choisi pour une manifestation qui va avoir lieu le 26 février à 20h30 au Petit Théâtre de Colomiers, où il y aura des lectures autour de la neige et autour de l'œuvre d'un poète que tu connais bien, qui est le poète persan Rumi. Mm-hmm. Et donc nous aurons également notre ami Manijé Nouri, qui sera présente et qui lira en persan des textes de Rumi également. Donc avec les poètes qui seront présents, comme Claude Barrère par exemple, qui sera là, et qui liront des textes sur la neige. Alors c'est un événement qui est un événement international. C'est-à-dire que Toulouse s'est joint à d'autres villes pour faire cet événement autour de la poésie et de la neige. Voilà, donc c'est le 26 février à 20h30. Voici ce que en dit Andreu Resplandi de la neige. Il neige sur les amandiers. Viens ici, près de moi. Nous regarderons le balai des perles d'eau en fleurs qui descendent du ciel blanc et gris pour venir épouser la gloire des arbres. Subtil mélange de rose délicat et de blanc virginal. Tu m'offriras ta main, sans doute ridée mais toujours douce. J'y poserai mes doigts rudes et bien maladroits. Ainsi, nous laisserons à l'amble de la neige le temps couler.
Neve sur les améliers. Venez à qui, proche Yeo, miraren le balai di perlo d'aigle en flou, que d'avalon d'au seu bouchard, et qui s'adunon pieille à la glorie des aubres. Sutiu mesclun des roses escrées et des blancs virginéus. Mais bayerastama, beleu fronzido mai sempre manso, y pausarei midet truffe, tant des gaubia, et leisaren, à l'ample de la neu, l'utensraya.
Voilà, Andreu Resplandi, Dicho du Vespre che de Valo, les dits du soir qui tombe, aux éditions Lastrade. Vous trouverez toutes ces indications sur notre site les-poètes.fr. Merci Alain pour cette lecture. Alors, tu dois connaître Jean-Pierre Lassalle, Alem.
Oui. Hein?
Jean-Pierre Lassalle, qui est professeur honoraire, donc émérite de l'université Toulouse Jean Jaurès maintenant, anciennement Toulouse Mirail, et qui fait partie de, il y a un très beau numéro de la revue Midi-Pyrénées, qui est consacré au surréalisme dans notre région, hein, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, le surréalisme dans cette région-là. On s'aperçoit que c'est un mouvement qui a été un mouvement très vivace, très profond. Et Jean-Pierre Lassalle fait partie donc des, je dirais, des survivants de ces poètes surréalistes. Et il vient de faire paraître à Encre Vive, hein, qui en fait le 448e numéro d'Encre Vive, il vient de faire paraître un recueil donc qui s'appelle Il convient, qui est un recueil donc de poèmes surréalistes. Alors, je pense avoir le plaisir bientôt d'avoir Jean-Pierre Lassalle à ce micro pour nous parler de ce recueil. La vie et l'œuvre de Jean-Pierre Lassalle semblent se présenter comme les mentions du théâtre médiéval, c'est-à-dire une mention surréaliste, une mention ésotérique et une mention chevaleresque. Ce sont les mentions des femmes aimées sous le double signe d'Eros et d'Agapé. Humour, créativité dans les thèmes et les images, mais aussi tonalité élégiaque, caractérise ce nouveau recueil, Il convient. Celui qui imagine sans érudition a des ailes, mais n'a pas de pieds. Ça, c'est Joubert qui écrivait ça dans ses carnets. Et le poète surréaliste Jean-Pierre Lassalle chausse les sandales ailées d'Hermès. Voilà, Jean-Pierre Lassalle, donc depuis le grand Paragon de 1962, a publié une dizaine de recueils à ce jour, dont Les Petites Sémours, dans la collection Encre Blanche, Encre Vive, chez d'autres éditeurs, notamment les trois principaux recueils, La Fuite Écarlate en 1998, Poème Presque en 2000, Les Carissolus en 2001, et tout droit aux éditions MCP Toulouse. Alors, Il convient, c'est un titre qui est mystérieux. Alors, qu'est-ce que c'est ce titre? C'est la devise autographe d'Antoine Lassalle, qui a vécu de 1386 à 1460, sur un manuscrit de Cassiodore en sa possession. Donc, excusez du peu, même devise qu'il grava le 18 mai 1420 dans la grotte de Sibylle, en Italie. Voilà. Alors, comment il a pu trouver ça, c'est ce que nous lui demanderons quand même lorsqu'il viendra. Voilà, pour ne pas alourdir cette émission, je ne dirai pas d'extrait, me réservant bien sûr pour une prochaine fois. Vous trouverez des renseignements sur cette publication, Il convient, de Jean-Pierre Lassalle, sur notre site les-poètes.fr. Et puis, toujours Encre Vive, qui publie dans son 450e numéro, Simone Allier-Darham, Syllabes, un recueil de poèmes. Simone Allier-Darham, qui est médecin, qui s'est illustrée dans les avancées de l'immunothématologie, qui est membre d'Académie scientifique, elle est aussi maître S-jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Son humanité à fleur de peau s'est exprimée dans la parole poétique par la publication de recueils, c'est intitulé Écriture, Émoti, Icône, Effluve, Des Éphélides plein les poches, Ellipsoïdes, Paradis ébouriffé et Pension effleurée. Tout ceci sont les titres de ses recueils. Des poèmes comme d'incessants soliloques sur ce qui captive son regard et son âme. Je ne parle de rien, je sais que tout va bien et j'attends de partir. Écrivait-elle comme une conclusion d'une vie saturée d'expérience dans son dernier livre. Pourtant, avec ce nouveau recueil, Syllabes, d'une écriture épurée, d'une grande densité, elle poursuit le chemin lucide sur l'impossibilité de revenir en arrière, mais sans rien oublier de ce qu'elle a traversé. La mélancolie, après un si long parcours d'une puissante vitalité, où es-tu ma rebelle, se réfracte dans le regard et elle atteint, sans l'avoir choisi, le plus troublant de sa parole poétique. J'ai accouché de la tendresse. Je veux mourir dans le vent, grignoté d'amour par des vapeurs d'être. La terrible expérience de la vie, des deuils, le temps qui s'effiloche, obscurcissent les jours à venir et elle se voit, je la cite, sans devenir comme un mollusque handicapé. Mais l'amour sauve du naufrage, un autre amour, non celui charnel qui lui a été enlevé. Je suis vide de toi, où es-tu passé? Une pluie de peine glacée me laboure le crâne sans cesse, mais celui impalpable, incommensurable qui lui permet de se voir par transparence et aller sur un possible infini. Elle sait qu'elle a atteint le discernement et qu'elle veut l'exprimer, comme toujours, avec pudeur. Dans les mots que tu dis, il y a plein de sens cachés. Ce discernement qui, pour percer, fait le vide. Quand tous les arbres qui cachent les forêts seront morts, on verra peut-être par-delà les futaies. Et l'espérance se dessine à l'horizon de la nostalgie, de la tendresse. Demain, je deviendrai le souffle. Voilà, très beau recueil donc de Simone Allier d'Aram, 450e numéro d'Encre Vive. Et puis, très vite, le 451e numéro d'Encre Vive est consacré au parcours littéraire atypique de Claude Caillaux, écrivain, poète. Je vous invite, donc c'est le directeur des cahiers de la rue de Ventura qui a fait d'ailleurs un numéro spécial sur Henri Hartebise récemment. Hein. Voilà, donc Claude Caillaux qui a collaboré à toutes les revues, un nouveau recueil, Arpa, Poésie Première, c'est-à-dire Jointure, etc., Multiple, Littéral. Enfin, toutes les revues, on trouve tout son nom. Il a une œuvre qui est quand même assez considérable aujourd'hui. Je pense avoir le plaisir, et nous avons déjà fait une émission avec lui, je pense avoir le plaisir de pouvoir le joindre pour... nous parler un petit peu de ce parcours qui est effectivement un parcours passionné de poésie, de littérature et qui mérite que l'on en parle. Alors, Alem, les Orients d'Occitanie, clocher et minaret, le midi antichambre des Orients. Une série de conférences, donc on est là dans un sujet, dans deux sujets, les deux premiers sujets que tu as bien pratiqué depuis longtemps, dont nous avons déjà parlé. Et puis un troisième sujet, le midi antichambre des Orients, du méridional à l'indigène, qui est le troisième volet de cette série de conférences qui, effectivement, est innovant par rapport aux autres. Mais avant d'innover, on va, si tu le veux bien, on va repartir sur les Orients d'Occitanie en faisant une petite pause pour annoncer ce sujet, les Orients d'Occitanie, en écoutant une de nos amies que nous connaissons bien, la voix du métro entre autres, hein, Muriel Badby-Castel, qui a mis en musique un poème de Louisa Poli, Silence dit l'automne, Silence de l'automne de Louise Paulin. Tu peux nous dire deux mots sur Louise Paulin?
Oh ben je pense qu'on peut dire que c'est une des trois grandes poétesses occitanes du XXe siècle, hein, avec Marcel Drutel et Marcel Delpastre, et mais qu'elle, bon, elle a une musicalité particulière. Ce qui m'avait toujours intéressé avec Louisa Paulin, c'est qu'elle elle se nourrissait de la musique de Sibelius, le musicien finlandais. Oui, oui. Et donc, voilà pourquoi il y a du silence, il y a cette valeur-là qu'elle donne au silence.
Oui. Alors, c'est étonnant quand même, hein, Sibelius. Donc, je crois que quand même, l'âme occitane est une âme profondément curieuse et surtout une âme profondément attachée. Justement aller chercher cette richesse aussi ailleurs et pouvoir se l'approprier à sa façon et en étant encore plus, je dirais, authentique dans son expression.
Hein. Mais il y a des retours en même temps, puisque la plus grande, une des plus grandes compositrices actuelles, Saariaho, est une Finlandaise qui travaille sur les troubadours et qui a fait l'opéra qui tourne actuellement sur Jaufre Rudel autour de... Voilà.
On l'écoute, Muriel Badby-Castel.
Silence de l'automne, quand l'aubaine s'espose, douce comme une plume de palombo. Escapado de la negruma del casaire, silencio sobre el auto, un sausis la dare rubes fond.
Voilà, c'était Muriel Batby-Castel qui donnera un récital jeudi prochain à Toulouse, gratuitement, donc à 18h30 à la salle du Sénéchal, rue de Rémusat à Toulouse. Donc allez l'écouter, hein. Jeudi prochain. Les Orients d'Occitanie. Dans Les Orients d'Occitanie, c'est d'abord le titre d'un de tes ouvrages clés, quand même.
Oui, hein, c'est un des premiers.
Un des premiers, bon, qui est réédité maintenant par les éditions Médicis.
Oui, hein, oui. Voilà.
Alors, dans Les Orients d'Occitanie, tu lis, comme son nom l'indique, tu lis la culture et la civilisation occitane à la culture et la civilisation orientale.
Donc, toutes les influences et aussi les interférences. Hein, les influences, c'est des choses que nous n'avons pas appris souvent, même la plupart du temps.
Jamais appris, oui.
Ou jamais.
Oui.
Donc, c'est pour ça que je parle de civilisation occitane. Oui. Ça veut dire qu'elle est très complexe en même temps, mais qu'elle a su établir, alors que ce n'était pas la France, hein, établir des liens logiques par la Méditerranée, d'une part, et par les Pyrénées, vers l'Andalous, et par les ports pyrénéens et les ports de mer, ports de montagne et ports de mer. Elle s'est reliée tout naturellement à ce qu'on peut appeler les Orients, et ça c'est très important, le pluriel, parce que je pense que nous avons dû être les premiers dans les années 1999 à dire attention, l'Orient ça n'existe pas, l'Occident ça n'existe pas. De qui vous voulez parler pour l'Occident? Des Suédois ou des Andalous, des Américains du Nord, ou c'est quoi? Et l'Orient, c'est lequel vous parlez? De l'extrême, du proche, des Arméniens ou des Coptes ou des... C'est quoi? Ça n'existe pas. Et c'est ce qui met cette simplification, cette réduction au singulier, c'est terrible, c'est ça qui fait en grande partie l'affrontement Orient-Occident. De deux choses complètement abstraites qui n'existent pas.
Ça me fait penser quand on disait, c'est Machado qui disait, il n'y a pas une Espagne, il y a des Espagnes.
Voilà, hein, voilà. Par contre, pour la France, on a du mal à dire il y a des Frances. Et pourtant, elles existent.
Oui. Il disait, una de las dos Espagnes ha de el arte el corazón. Une des deux Espagnes te laissera le cœur.
Ouais.
Donc, ça veut bien dire qu'il y a là aussi une diversité.
Oui, oui, elle est partout. Voilà.
Or, c'est vrai que nous, et c'est peut-être, dans le fond, notre jacobinisme républicain, comment dirais-je, triomphant, qui fait que on a du mal à séparer, à diviser.
D'ailleurs, il empêche de comprendre la diversité du monde, en fait, puisqu'il ne l'admet pas à l'intérieur, si ce n'est qu'inférieur. Diversité, oui. L'Empire colonial faisait
une hiérarchie
en disant voilà, l'Empire français et voilà sa diversité. Mais c'est une infériorité.
Oui. Voilà, il y a une hiérarchie.
Il y a une hiérarchie.
Il y a une hiérarchie. Donc, les Orients, c'est-à-dire que, une culture, une civilisation qui va passer par tous les arts. Les arts, donc on va retrouver les influences, bien entendu.
Bien sûr, et même les plus lointaines. Mais aujourd'hui, on a du mal à comprendre que les gens voyageaient beaucoup, hein, et que en plus, si on parle d'Al-Andalus, c'est-à-dire Cordoue, Cordoue reçoit des influences de Bagdad, qui elle reçoit des influences iraniennes, qui elle reçoit des influences chinoises, mongoles et indiennes. Hein, donc c'est rien, c'est une circulation, c'est ça que j'essaie toujours de mettre en avant, alors qu'on est enfermé quelquefois dans un hexagone qui croit avoir tout inventé. Voilà.
Ça circule. Ça circule depuis, enfin, même quand on regarde dans l'Antiquité, par exemple, à quel point Saint Paul de Tarse, quand on regarde ses périples, tous les voyages qu'il a fait, c'est assez stupéfiant.
Avec des communautés complètement différentes.
Oui. Et donc, dès cette époque-là, avec les moyens, qui étaient quand même les moyens de locomotion très limités, on arrive quand même à voir les troubadours, par exemple, quand on regarde le périple de Peyre Vidal, par exemple.
Oui. Entre autres.
Bon, qui va en Hongrie, qui va
à Chypre, jusqu'à Chypre.
Qui va à Chypre.
Qui... Et qui veut se marier avec la fille de l'empereur byzantin.
On n'hésite pas. Donc, ce sont des gens qui voyagent énormément. Énormément. Et donc les idées voyagent, les arts voyagent.
Et les formes voyagent. Esthétiques voyagent.
Voilà. Donc il n'y a rien de nouveau, je veux dire.
Simplement c'est que, c'est ça la base de la créativité, c'est de ne pas avoir peur de recevoir des influences. Parce que recevoir des influences, si vous les recevez simplement comme ça, sans un substrat que vous avez magnifié ou pas, vous allez faire avec votre substrat et ces influences reçues, vous allez faire synthèse. Et cette synthèse sera quelque chose un peu de nouveau que vous allez relancer et qui va être repris ailleurs et remalaxé et réinventé.
Oui. Et ça peut donner le flamenco, par exemple.
Bien sûr.
Ça peut donner le tango.
Oui, toujours au croisement de plusieurs sensibilités.
Ouais. Et actuellement, on assiste à ce mouvement d'une façon contemporaine dans tout ce qui est de la musique.
Bien sûr.
Qui, effectivement, épouse et intègre, assimile. Et transforme toutes ces influences.
Mais c'est pas nouveau. Hein?
Voilà, c'est pas nouveau. Et ce sera toujours comme ça.
C'est toujours.
Ça donne une évolution. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les Orients d'Occitanie, quand même? On peut parler de l'histoire, parce que ça se situe...
Alors, l'ouverture un petit peu, le premier livre, lui, traitait des influences orientales depuis la plus haute antiquité. Bon, évidemment, il y a deux peuples qui sont un peu fondateurs pour ça, et qui se partagent la Méditerranée, c'est les Phéniciens et les Grecs. Hein, et ben ces Phéniciens qui vont fréquenter jusqu'aux côtes catalanes et languedociennes vont rencontrer à un moment donné les Grecs qui eux ont bâti des ports, des entrepôts sur toute la côte provençale et languedocienne. Mais à partir de là, ça n'arrête pas. Et donc ces influences, elles sont souvent minimisées. Parce que on a, et aussi parce qu'il y a une vision qui est franco-centriste et surtout essentiellement franco-parisienne. Je crois que Paris ne comprend pas ce qui se passe dans le sud et sur les bords de la Méditerranée. Elle ne le comprend pas, elle essaie de l'annexer, elle l'a annexé, mais elle ne le comprend toujours pas. Parce que le maillon manquant entre la péninsule italique et la péninsule ibérique, c'est l'espace doc des pays doc. Et en voulant les nier et les phagocyter, elle s'empêche de comprendre la Méditerranée.
Alors, on va voir que ce que tu dis va se prolonger en définitive au cours des siècles.
Oui, parce que souvent, quelquefois, au niveau occitan, on a tendance à dire « Ah oui, avec la croisade contre Toulouse et les Avignois, la bataille de Muret, ça y est, c'est fini. » Et ce qu'on a entendu, et qu'on a cru, ça y est, c'est fini. C'est vrai que la situation, elle a pris un coup, sérieux. Mais les arts montrent... et l'architecture notamment, montre que non, c'est pas fini, et que ça continue à travers les Pyrénées, et que Toulouse va, malgré tout, et de façon tout à fait spectaculaire, inventer, là aussi, toujours avec d'autres influences, va inventer ce qu'aujourd'hui on appelle l'art gothique occitan, qui n'a rien à voir, et qui est même opposé à l'art gothique français. Mais, vu de Paris, c'est un art mineur. Alors que, parti de Toulouse... il va franchir les Pyrénées à la rencontre de l'esthétique arabo-musulmane de l'Aragon, et il va suivre au XIVe siècle, au moment où Avignon, en terre occitane, est le siège de la papauté, donc qui va diffuser, en même temps que l'art gothique français, elle va diffuser l'art gothique occitan, que la plupart des papes qui sont occitans ou aragonais vont favoriser, et ça jusqu'à Chypre. Or, c'est aujourd'hui qu'on commence à voir un œil exercé sur ça. Mais il fallait se dégager de la doxa de l'Île-de-France.
Et la littérature?
Et alors la littérature, elle aussi, si au XIIe siècle, évidemment, les troubadours sont sensibilisés à l'Andalous, parce qu'ils suivent les princes occitans qui, eux, sont aux côtés des Aragonais et quelquefois aux côtés des princes musulmans de l'autre côté des Pyrénées, mais aussi à cause de Tripoli, au Liban, qui est une possession toulousaine et qui va faire, et Tripoli, c'est important parce que c'est un des débouchés de la fameuse route de la soie. Donc, là, Toulouse est branchée directement. Et puis, il va y avoir une période un peu plus, un peu, bon, confuse, et 14e, 15e siècle peut-être, mais il va y avoir de nouveau un renouveau à partir du 17e siècle, et surtout, évidemment, 18e, bien sûr, et 19e siècle, où là, on rentre dans la conjonction de trois mouvements, ce qui est assez extraordinaire. La redécouverte du passé médiéval dans toute l'Europe, à partir de l'Allemagne et de l'Écosse, notamment. La découverte, automatiquement, dès qu'on va à l'époque médiévale, on redécouvre les troubadours, et on redécouvre l'Andalousie. Et en même temps, c'est l'orientalisme qui naît. On ne peut pas considérer l'un mouvement sans l'autre. Voilà. Alors, il y a des personnages qui ont joué un rôle très très important. Et un qui est pas assez connu, je trouve, c'est l'abbé Florian. Florian, le fabuliste, mais lui qui était de Nîmes, qui connaissait très bien la culture espagnole et qui est allé fouiller dans les documents, qui connaissait les historiens espagnols qui ont redécouvert le monde d'Al-Andalus, eh bien, va écrire quelque chose qui est fin 18e, tout à fait étonnant. Il va dire, ô toi, Occitanie, pour qui les Arabes vont quitter l'Andalousie. Ça, tout d'un coup, on se dit, le mot Occitanie, tout ça, etc., c'est quelqu'un de très au fait.
C'est la première fois qu'on emploie ce terme d'Occitanie, là?
Non. Hein? C'est fin 13e.
Oui.
Fin 13e, déjà, pour qualifier, une fois après l'annexion, c'est-à-dire 1270, il fallait donner un nom à cette annexion. Comme les Toulousains, eux, parlaient de leur langue, romane, cette romanité-là, donc, et que c'était appelé Oc, c'était la langue d'Oc, issue du latin, donc le mot Occitanie s'est imposé en rapport avec Aquitania, Occitania. Voilà, mais dès le IIIe siècle, c'est surtout pour les pays annexés par la couronne, c'est-à-dire essentiellement ce qui est aujourd'hui les terres de Toulouse, c'est-à-dire ce qu'on a oublié, le haut Languedoc dans lequel nous sommes, et le bas Languedoc essentiellement, c'est-à-dire entre la Garonne et le Rhône.
D'accord.
Donc, Toulouse a été quand même un carrefour extraordinaire de quand on regarde l'histoire de l'Antiquité à cette période-là, la période moderne. Hein, il y a eu un carrefour.
Ah oui, c'est étonnant.
Civilisation.
Carrefour de civilisation. Et quand j'entends à la radio, il y a pas très longtemps, là, il y a deux ou trois jours, qu'il fallait désenclaver Toulouse, c'est très rigolo de notre vue, parce que c'est vu, ça, c'est la pensée TGV, par rapport à Paris.
Oui, c'est toujours pas ça.
C'est dément.
C'est toujours.
Oui,
Paris.
Comme on dit qu'il fallait désenclaver Marseille. Oui. Marseille oui. l'a désenclavé. Non, mais c'est.
Alors
c'est d'un grotesque complet.
Alors que c'était elle qui était depuis
l'Antiquité grecque
dans le commerce.
La 2700 ans d'histoire, il faut la désenclaver.
Depuis l'Antiquité, quoi.
Ce qui veut dire qu'il faut qu'elle soit à 2h30 de Paris. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est incroyable.
C'est-à-dire que c'est toujours par rapport à Paris que le jugement est fait.
Voilà. Et donc, et c'est pour se dégager de ce jugement qui a, bon, quelquefois, qui a sa valeur, mais vu, c'est un point de vue, hein, on ne comprend Toulouse, en fait, que si on connaît vraiment l'Aragon et la Catalogne, et même la Navarre. Sinon, on comprend pas Toulouse, on ne voit qu'une annexe, qu'une province, quelque chose comme ça. Alors que là, et le dernier article sur lequel je vais travailler pour la revue Horizon Maghrébin, c'est de mettre en parallèle Toulouse et Saragosse, qui sont deux miroirs, l'un de l'autre, sur l'Èbre et sur la Garonne, et qui ont été pendant des siècles en contact.
Oui, ce sont des villes qui se ressemblent de par leur importance.
Leur importance, et puis historiquement, comme elles ont été des foyers culturels incroyables à certaines époques.
Oui. Et Est-ce que tu penses que, alors je reviens dans l'époque contemporaine, est-ce que tu penses que actuellement ces liaisons sont suffisamment développées?
C'est-à-dire, est-ce que non, voilà, c'est parce que c'est insuffisant. Bien, ouais. Moi, je vois qu'il y a une appétence du public, du grand public, puisque j'en suis à peu près à 600 conférences ou entretiens, oui, hein, publics, même à l'étranger, et je vois que il y a un intérêt pour ça. Mais ce n'est pas relayé par les médias. Et quelquefois, les journalistes, sans parler des journalistes uniquement de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon notamment, mais au niveau national, c'est catastrophique. C'est que... on en est encore au Cigale du 19e siècle, quoi, voilà. Et pays de résidence secondaire où c'est bon vivre, et puis c'est tout.
Alors on a l'impression aussi qu'au point de vue culturel, par exemple, c'est... quand il y a des animations, que ce soit dans les bibliothèques, etc., on fait venir des gens. C'est-à-dire que je regardais par rapport à ce qui s'était passé dans les années 80-90 à Toulouse, où il y avait eu, par exemple, cette exposition Toulouse-Bologne,
qui était
quand même
super
intéressante, où tu avais fait la partie...
C'est la première fois que j'étais engagé dans ça.
C'était drôlement intéressant.
C'était un jumelage, d'ailleurs.
C'était un jumelage.
Et c'est vrai que récemment, on m'a demandé de faire d'alimenter un jumelage entre Toulouse et Atlanta. Oui. On a fait aller un groupe tout le temps. Et peut-être avec Tel Aviv, bientôt.
Voilà. Alors ces jumelages, je trouve que c'est vraiment très 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 bien.
Mais ils ne sont pas exploités.
Alors ils ne sont absolument pas exploités. Et je vois les bibliothèques à cette époque-là s'en occupaient, avaient fait cette exposition où toi tu avais fait la partie
Occitane.
Voilà, et moi j'avais fait d'ailleurs la poésie. Mais tout ça est tombé en désuétude.
Oui.
Au profit d'animations qui sont des animations universelles au sens parisien du terme.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on va faire venir le dernier prix Goncourt qui va venir de la capitale à la province.
Et ça, c'est d'autant plus important on appelle ça aujourd'hui la gentrification. C'est-à-dire qu'il y a une gentry, une bourgeoisie qui se pique de culture et qui s'installe dans le sud et qui apporte et qui impose ses modèles en tout.
C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune différence entre ce qui se passe à Poitiers ou à Toulouse.
C'est uniformisation des goûts.
Dans un quartier de Paris.
Oui, c'est uniformisation des goûts et des couleurs.
Voilà, c'est ça.
Et ils ne s'en rendent pas compte,
Ils ne se rendent pas compte, c'est ce que je regarde. Moi, je regarde maintenant d'une façon un peu distante, mais je suis assez inquiet. Parce que je trouve qu'il y a là une régression très, très forte.
Qui correspond à d'ailleurs
à une génération nouvelle, c'est-à-dire les gens qui ont 30 ans, 40 ans maintenant, qui n'ont pas connu peut-être cette façon de vivre la culture d'une façon un peu différente, un peu particulière, un peu spécifique selon les lieux, n'a jamais connu ça, donc ne peut même pas supposer qu'il y ait là une difficulté.
Oui, et ben c'est là où ils sont provincialisés.
Oui, voilà.
Comme les mérites ont été provincialisés, il fallait qu'ils soient entièrement façonnés pour devenir universels par Paris, et maintenant Paris est complètement provincialisé.
Oui. On y est arrivé.
Oui,
ils sont arrivés. Alors, il faut résister, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais il y a de quoi. Il y a des ressources.
Voilà. Alors, il faut résister en lisant donc les Orients d'Occitanie, en regardant un peu autour de soi aussi. Ne serait-ce qu'en regardant, en entrant dans la cour Henri IV. Du Capitole et en levant les yeux, voir comment est le plafond au-dessus de la statue d'Henri IV.
Au-dessus de la statue d'Henri IV.
Voilà.
Et je dis chaque fois, roi de France et de quoi?
De Navarre.
Et de Navarre. Et on a tendance à oublier qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est nous.
Oui.
C'est l'autre vers ça. Il y a la France, d'accord, mais c'est pas complet. Il y a la Navarre, à égalité de traitement. Parce que c'est ça que ça veut dire. Donc, je suis résolument navarré. Et il se trouve que j'ai mis 20 ans à faire, à ce que les guides touristiques de Toulouse regardent ce plafond qui est admirable, mais évidemment, qui est un plafond de style mudéjar, hein, d'esthétique voilà. musulmane aragonaise, et qu'on trouve alors à foison au sud des Pyrénées. Mais alors on peut se dire, pourquoi Toulouse au cœur du pouvoir? Ben c'est que c'est lié à l'autre au sud des Pyrénées encore, hein, et qu'on fait venir les meilleurs artisans.
Oui. Et qui reproduisent, bien entendu, ceux qu'ils sont,
rues, etc. Et on leur demande. On leur demande parce que ça fait partie de la culture générale, voilà, transpyrénéenne.
Voilà. Et que c'est beau, tout simplement.
Et que c'est beau. Ouais.
D'ailleurs, Henri IV, c'est assez intéressant, et j'avoue que la biographie, il y a peu de temps. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, d'Henri IV, de François Bayrou.
Oui, hein, oui, ah oui, il était, je crois que ce était inspiré en pensant qu'il pouvait être le digne successeur.
Oui.
C'était l'époque d'ailleurs, les hommes politiques se trouvaient, se trouvaient en référent historique.
Alors, est-ce qu'on peut lire peut-être un texte à l'EM sur, donc, extrait des Orients d'Occitanie?
Alors, je pense à un texte qui est assez extraordinaire, c'est le Roland occitan, parce qu'on est habitué qu'il y a un Roland et que le Roland est français. En fait, il est anglo-normand, et il y a le manuscrit à Oxford, hein, c'est ça. Il est écrit anglo-normand, il faut jamais oublier, donc c'est pas vraiment français. Et on a trouvé sur le lieu des Pyrénées, on s'était dit, c'est bizarre qu'il n'y ait pas une œuvre en occitan à l'époque. Or, on a trouvé des extraits d'une œuvre, c'était à Aix-en-Provence, dans le courant du XIXe siècle, on a trouvé des extraits d'une chanson de geste qui s'appelait dans lequel le thème de Roland de Roncevaux y est présent. Mais c'est une œuvre qui est complètement différente du roman français, dans le sens où ce qui importe, parce que si tu te rappelles et tous on l'a étudié plus ou moins, c'est on y tue à chaque page, c'est incroyable. Oui. Et puis à la fin, il y a quand même deux ou trois vers pour pleurer la belle ode qui pleure son pauvre. C'est tout. Or, le roman occitan, et ça prouve que, bon, parce qu'ils sont écrits au XIIe siècle, ces textes-là, bien après l'histoire réelle de Roncevaux du VIIIe siècle, hein, et on s'aperçoit qu'ils sont très imprégnés de littérature courtoise, des troubadours, et aussi d'une certaine atmosphère musulmane, des grandes cours raffinées, notamment de Saragosse. Et je vais vous lire un extrait. Comment, parce que le Roland occitan tombe amoureux de la princesse musulmane. Donc c'est complètement différent là, hein, voilà. Et il va se mettre dans une sorte de guépier incroyable. D'ailleurs, Olivier va lui dire après, comment je vais aller te chercher, hein. Bon, et il y a un portrait de cette princesse-là, qui s'appelle Braslimonde. Alors, je vais vous lire cet extrait, au début en occitan, et puis en français. Et Braslimonde, amb el cor scovinant, a osi parlar de Palain Roland, que en la ciutat en fiel colps ai tants grans, biest un blisaut d'un pali africant, en un samit causos estretament. Cependant, Braslimonde, au cor parfait, entendir du paladin Roland qu'il frappe de grands coups à l'intérieur de la ville. Elle revêt un bliot de soie broché d'Afrique et des chausses ajustées de soierie. Elle jette sur ses épaules un manteau de grand prix. Et rien que les boucles qui la ferment sur le devant ne peuvent être achetées que par un très riche marchand. On amène devant elle son cheval. Il est vert et indigo, pommelé et gris de fer. La selle est d'ivoire, incrustée d'argent, et le tapis de selle d'une soie d'Afrique est le poitrail, merveilleusement riche. Il y avait 1000 clochettes d'or sonore, toutes jouent sur deux fils d'argent, quand l'une monte, l'autre descend, appareillées qu'elles sont par couple. Dieu n'a jamais fait de clair à ses savants pour savoir quel engin les actionne. Le frein est en or, les rênes en argent. Il y a des escarboucles et de grosses topazes. L'émir de Babylone, Babylone, c'est le Caire, les lui avait envoyés. C'était son ami, il l'aimait tellement. La dame monte sur le palefroid, elle prend l'étrier, n'attend pas de compagnie, on lui apporte un épervier, qui a quatre fois muet, on n'en connaît pas de plus vaillant. Elle le porte au poing, sur un gant, lamé d'or finement ciselé. On est en plein dans les mille et une nuits.
Ah oui, tout fait.
C'est une princesse des mille et une nuits. Soit qu'ils l'ont vue à Saragosse ou à Barbastre, mais aussi derrière, parce qu'on est là au XIIe siècle, et quel est le personnage de femme qui fait, à l'époque, qui fait l'objet d'une admiration? C'est Aliénor. Et on pense que peut-être, c'est un mélange des deux qu'il y a derrière. Parce que cette femme qui monte à cheval et qui n'attend pas, qui est reine dans son domaine, d'Aquitaine. C'est étonnant. Oui. Mais là, on a des descriptions incroyables de richesse, qui est liée à la Saragosse musulmane.
Étonnant.
Oui, c'est très très beau. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin de Roland, quand il meurt, il est assisté, dans le roman occitan, par un musulman. Qu'il recommande à son Dieu. C'est extraordinaire.
Et alors, les agresseurs sont qui dans cette version?
Ah, c'est toujours, de toute façon, en face, on a une civilisation que musulmane, qu'on craint et qui fascine. Voilà. Et souvent, dans les textes occitans, c'est ce qui fascine est plus mis en avant que ce qui est craint, en fait. C'est un double jeu tout à fait étonnant. Mais bon, il y a une logique. Il y a une logique, c'est que les troubadours ou les gens qui écrivent accompagnent Guillaume IX d'Aquitaine dans ses cours, dans ses chevauchées de l'autre côté, aux côtés des Aragonais. Mais là, actuellement, je travaille sur quelque chose d'assez extraordinaire qu'on connaît pas non plus, qui s'appelle le vase d'Aliénor. Il y a un vase qui est à Saint-Denis, qui est conservé. Il appartenait à Guillaume IX d'Aquitaine, qui lui a été donné par son compagnon d'armes, Imad al-Daoula, qui était l'émir de Saragosse, et qui était son ami, son compagnon d'armes, et il lui a offert. Et on pense, il y a d'ailleurs, dans la poésie de Guillaume, il parle d'un certain Bonvesi, d'un bel vésir, d'un bon voisin et beau voisin, et ça doit être, on pense que c'est un hommage à ce jeune musulman.
Étonnant.
Oui, on cherche les maillons manquants de toute façon, hein, parce qu'on nous disait il n'y a rien à voir, puisqu'on a la frontière hexagonale qui nous passe par les Pyrénées. Et qui fait qu'on est devenu opaque.
Alors, dans la réalité historique, Roland, ce sont les Basques, quand même.
Oui, hein, bien sûr. Donc, et les Basques, il y a des textes qui ont été écrits à cette époque-là, sont les Basques, les Aquitains, qui étaient les ennemis des Francs, aidés de musulmans, certainement. Oui.
Alors, ça, c'est dans les Uriens d'Occitanie. Voilà. Nous allons devoir rendre l'antenne dans peu de temps. Je ne sais pas si on peut peut-être aborder Clocher, Minaret, et puis je te demanderai, si tu le veux bien, Alem, de revenir pour ce troisième volet qui me semble très important, enfin, en tout cas, me tient beaucoup à cœur. C'est le Midi, antichambre des Orients, méridionale indigène, parce que là, on est aux portes de notre vie actuelle, quand même.
Si tu veux, on peut l'aborder.
Alors,
directement.
On peut l'aborder, mais on va avoir 9 minutes.
Hein. D'accord.
Alors, on va aborder ça, si tu veux bien. Oui. Ce qui nous empêchera pas d'y revenir.
Bien sûr.
Parce que je crois que c'est tellement, à mon avis, c'est tellement riche comme réflexion, et il faut absolument... Alors, l'ethnotype méridional, c'est de cela dont on va parler. Tout démarre au 19e siècle. On va partir du 19e siècle avec le romantisme, la naissance du romantisme. Oui. Donc l'Écosse, l'Angleterre, l'Allemagne, la Grèce.
Et la Suisse avec Madame de Staël et Sismondi, et de Sismondi, qui ont été éloignés, qui n'aimaient pas beaucoup la France de Napoléon, et qui se sentaient un peu protégés en Suisse. Et qui ont pu établir tout d'un coup des études, et ont fait des études. Sismondi donnait des cours à Genève, et il a donné un cours sur l'articulation, ou en tout cas la comparaison, ou la filiation possible entre la poésie arabe-andalouse et la poésie des troubadours.
Alors, cette passion romantique, donc, on va récupérer du Moyen-Âge, donc, ce que tu dis.
Voilà, on récupère le Moyen-Âge, les Moyen-Âge à l'Andalous et l'Orient. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir un mouvement général européen, et notamment français du Nord, pour faire le voyage dans le temps médiéval et dans l'espace. Donc, on va s'intéresser beaucoup aux ruines également, oui. Évidemment. Oui. Les civilisations ruinées d'autrefois, oui, dont celle des, qui a été détruite à comment on appelle, à Muret. Hein, notamment les troubadours, donc il y aura un style néo-troubadour qui va naître à ce moment-là. Et évidemment, le voyage pour aller vers l'Orient et vers l'Andalousie, on est obligé de passer par où ?
Les Pyrénées.
Par les Pays d'Oc. Oui. Donc il y a trois entrées qui vont être mentionnées. Il y a bien sûr Marseille, qui va être appelée Porte de l'Orient. Hein, et déjà Flaubert, quand il allait sur les quais à Marseille, s'embarquant pour l'Orient, déjà il sentait la mollesse orientale sur les quais de Marseille. Voilà, donc c'est là. Ils y sont déjà dans le Midi, parce qu'ils connaissent pas beaucoup le Midi. Ils connaissent ce qu'on appelle le Midi, hein, puisque le Midi c'est une notion vraiment tardive. Et je pense que, hélas, beaucoup trop d'écrivains aujourd'hui encore, ou même de professeurs, utilisent le mot Midi de la France pour les périodes d'avant. Or ça n'existe pas. C'est pas le Midi, c'est vraiment à partir du 18e et surtout le 19e. Et on va créer, puisque c'est étrange pour les gens du Nord, ces pays qui vivent soi-disant un peu arriérés ou je sais pas, on va s'intéresser et à leur mœurs et on va là déclencher quelque chose qui est de l'ordre de l'ethnotype que l'on va retrouver tout de suite de l'autre côté de la Méditerranée, notamment chez les Arabes. C'est-à-dire que le méridional, eh bien, il est feignant, il est menteur, il faut se méfier de lui, il est velléitaire, etc. Pourquoi ? Parce qu'on va occuper ce pays et qu'il faut que les gens intègrent eux-mêmes qu'ils sont vraiment feignants. Style Fernandel, la terre est trop basse pour travailler, ce qui est un truc d'auto-dévalorisation incroyable et que nous avons tous plus ou moins intégré. C'est ça le méridional. Et le méridional n'a aucun avenir. Parce qu'il n'a aucune conscience de la valeur de son passé. Il ne le connaît pas.
Là aussi, on est arrivé à créer une hiérarchie et à inverser un petit peu les choses.
Ah oui, complètement. Complètement. Et l'autre porte, c'est bien sûr Toulouse. Toulouse, parce que Toulouse, c'est la porte des Pyrénées. Il faut passer pour aller aux Pyrénées. Et puis, la troisième porte sont les Pyrénées. Et ça, avec Victor Hugo et d'autres, Schrader, on va dire, ah, les Pyrénées, c'est la frontière entre l'Europe et l'Afrique. Eh bien, on y est. Et c'est pour ça que Joseph Delteille, disait dans les années 20-30, le Midi, c'est l'Orient de la France.
Donc le Midi, ça devient un pays exotique, un pays exotique, lointain.
Exotique. Et où les gens ne sont pas industrieux. Donc, oui. C'est les gens du Nord qui vont faire l'industrie.
Oui.
Puisqu'ils vont intégrer qui sont pas très travailleurs.
C'est, et ce voyage aux Pyrénées, c'est un voyage dans un lieu du rêve et de
tout se fond de le rêve, hein. Mais en même temps de découverte. Hippolyte Taine, quand il vient à Toulouse, c'est du racisme pur qu'il fait, hein. Les gens, d'abord, ils supportent pas les accents ni rien, hein, la plupart de ces gens. L'Occitan, pour eux, c'est, ils savent pas si c'est de l'italien ou de l'espagnol. Et même de l'arabe. George Sand, elle rencontre des bergers dans la montagne, ils sont un petit noireau, et je dis, ah, mais c'est des arabes, hein, c'est des morts. Voilà, parce qu'on est dans cette idéologie des morts d'Al-Andalus à cette époque-là. Voilà. Et Taine, ça va aller jusqu'à Céline. Céline qui va être effrayant, hein, qui va parler des faits libres, vinasseux et enjuivés, hein, qu'il faut foutre à la mer. Hein. Non, il y a, alors là, tous les grands écrivains français y passent et il y a des choses affreuses. Donc la conférence et le livre que j'espère écrire après va ressortir tout ça.
Alors l'orientalisme, on va trouver les caractéristiques des préjugés entre guillemets de l'orientalisme, c'est-à-dire l'exotisme, l'immobilité.
Oui. Ça bouge pas depuis la préhistoire, mais depuis la Bible. Oui. Oui. Voilà, on va chercher des paysages bibliques, oui, de désert dans lequel il y a des pâtres, voilà, qui sont là et qui attendent pour l'éternité. Voilà. Voilà.
Et parce qu'il va falloir finir là-dessus. Est-ce que c'est pas toujours le cas, ça ?
Si, ça continue. Ça continue et je récupère les images à la radio, pas les images qui sont données à la radio ou à la télévision. sur encore les méridions.
Parce que maintenant, là on parle du 19e siècle, oui. mais on est au 21e, oui. et il me semble que dans l'inconscient collectif national, oui, oui. On n'en est pas loin de ça.
Non, ça continue. Ça continue. Et là, comme je dis, cette bourgeoisie qui descend et qui est relativement à l'aise économiquement parlant, transmet, sans qu'elle le sache, vraiment, quelquefois, elle transmet cette arrogance-là. Parce qu'elle est au cœur de l'histoire, puisque normalement, tous ces pays, et c'est parti de Victor Hugo, l'Afrique n'a pas d'histoire. Voilà. Oui. Donc c'est nous qui la faisons pour l'Afrique, etc. Mais ça a été dit dans le discours de Dakar, de Guénot, avec Sarkozy. Ce qui a fait un tollé vis-à-vis des intellectuels africains.
Alors, Alem, on va rappeler que le programme de tes conférences figure sur notre site les-poètes.fr, que jeudi prochain, c'est-à-dire le 18, c'est ça, 18 novembre à 18h30, tu seras à la Maison de l'Occitanie, 11 rue Malcousinat à Toulouse, métro Esquirol, c'est une petite rue qui part de là vers la rue Saint-Rome.
Pour les Orients d'Occitanie, pour la première Orients d'Occitanie, voilà. Version qui est modifiée et
nouvelle version ajoutée. Voilà. Sur les Orients d'Occitanie, et ensuite une version sur les clochers
et ça arrivera le mois d'après, etc.
Et enfin, la troisième série sera sur...
un peu plus tard, parce qu'il y a 10 conférences dans l'année qui vont être données et qui sont autour de cette thématique.
D'accord. Donc c'est très intéressant, et c'est, bien entendu, ça se trouve... c'est gratuit, l'entrée est libre.
Tout à fait.
Et je vois pas dans tous les Toulousains qui sont par là et même ceux qui peuvent venir, vous avez intérêt bien sûr.
Voilà. Il y a diffusion d'images, hein, c'est à partir d'images qui sont projetées. De toute façon, toujours.
Avec en plus les images. Et nous te demanderons, si tu le veux bien, Alem, puisque nous avons pris beaucoup de temps sur les Orients d'Occitanie, de parler de ce volet qui moi m'intéresse beaucoup. Oui. Parce que
du méridional à l'indigène. Qu'est-ce qui se passe
à l'indigène? Voilà. Que je pense qu'on n'en est pas sorti de ça.
Tout à fait.
On n'en est pas sorti, et donc c'est un peu un choc de pouvoir le dire.
Ah, c'est décapant. Voilà.
Donc, à très bientôt, Alem.
À bientôt.
Et merci beaucoup. Bonsoir. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie, et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.